France Inter. .fr.
CO2 mon amour, avec l'énergiemoinscher.com, site d'information sur les primes énergie de Leclerc.
Votre chien, c'est un vrai con. Il fait chier tout le monde, toute la nuit à aboyer comme un cinglé.
Je hais les bêtes.
Quand on n'aime pas les bêtes, on vient pas se reposer à la campagne.
CO2, mon amour, Denis Chessot.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission qui tente de prendre le temps de ne pas aller trop vite. Avec aujourd'hui Yann Bouillot et Philippe Duclos à la technique et assisté de Stéphane Combe, c'est Christophe Imbert qui réalise cette émission. Allez, septembre, imaginez Frank Sinatra s'allonge sur la platine et dans la belle lumière de septembre, eh bien, montent les premières notes d'une légère folie douce. Le nez en l'air, lavé des chaleurs du mois d'août, vous ferez un petit salut aux hirondelles qui déjà se rassemblent. Elles regardent la carte, ajustent leur GPS, transmis de couvée en couvée. Au potager, l'aubergine à la peau douce, le sureau noir déploie ses grappes. Les chouettulottes recommencent à chanter pour marquer leur territoire. On muse de la terrasse des bistrots, allez, un petit noir. On profite des rayons obliques du soleil, des chemins de traverse. On cueille des mûres hors les murs. La France est morose, dit-on, c'est le moment de chanter, de faire comme l'oiseau. Et on s'étire l'été en prenant le thé. Oui, je sais que le café, ça marche pas mon truc. En septembre, les centrales font aussi parler d'elles. Fessenheim, ses rhumatismes et sa carte vermeille en poche compte ses points de retraite et s'offre un incident certes mineur, mais qui symboliquement fait mauvais genre à quelques pas de la conférence environnementale qui ne devrait pas vous bouleverser la donne dans les 5 années qui suivent. Fukushima, en revanche, a vieilli bien plus vite que prévu. Alors on informe la population au compte-goutte radioactive et on retient son souffle en regardant les ruines de la piscine du réacteur numéro 4. On s'active, on renforce la dite piscine de refroidissement. On s'échauffe et les forces de l'esprit japonais veillent à la maintenir en équilibre avant liquidation totale. En septembre, le soir, dans la beauté de l'univers sans voile, eh bien on repère un petit coin noir sans lampadaire pour se couvrir la tête d'une nappe d'étoiles. Et là, un jeune renard se coule dans la lisière. Oui, alors sois prudent, renard, car tu sais, on veut ta peau. Beaucoup ne t'aiment pas, moi si. Et pourtant, tu m'as chopé 2 poulettes, mon saligo. Mais tu as aussi boulotté pas mal de rongeurs qui s'en prennent aux grains que je moissonne. Eh oui, que le renard, c'est donnant, donnant. En septembre, les plombs vont commencer à siffler. Alors promeneur, coureur, prends ton gilet pare-balles, puisque la chasse en France se permet beaucoup de choses. Et avec la bénédiction de l'État, arrive même à se peindre en vert. Oui, on aura notre lot de blessés, de morts habituels dans la rubrique faits divers. À La Réunion, en septembre, face aux hommes, l'équipe des requins perd par plusieurs millions à 2 cette année contre les surfeurs et les braconniers qui remportent largement l'aileron d'or du massacre inutile. Septembre, ce sont les premières fraîcheurs du soir, le nez dans l'herbe tendre du requin. La terre est bonne à s'en saouler et pour un peu, on la prendrait à pleine main avec les pissenlits et on deviendrait ruminant. On croquerait juste dedans pour lui dire merci. Au menu de cette émission, donc, un magazine, ça veut dire qu'il y a différentes pages sonores à feuilleter, différents articles, il y en aura 5. Jean-Marie Pelt nous parlera de la sécheresse aux États-Unis et dans le monde. Je vous emmènerai à Chabrières, dans une forêt dans la Creuse, pour voir comment on peut gérer tout à fait correctement les forêts en évitant de tout massacrer quand on tire du bois. Avec notre partenaire Terre Sauvage, eh bien, nous irons à Bornéo, où dans un village social, écologie et économie font plutôt bon ménage. Nous ferons un petit point sur le très joli projet écologique de Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique, mais on abordera la loi sur l'eau, qui risque d'être un petit peu contrariée par le dit projet. Mais notre premier sujet, c'est tout de suite, c'est l'actualité. Bonus, malus, électricité. Alors, c'est une des 60 propositions du candidat Hollande. Et dans un contexte, on peut dire, très durable, où le prix de l'énergie va augmenter, la température du globe également. Il s'agit de faire baisser la facture de gaz et d'électricité en incitant à consommer moins et mieux. Donc, ça va devenir une proposition de loi. Près de 4 millions de foyers sont en situation de précarité énergétique. Le principe, les premiers kilowattheures seront moins chers et puis on va surtaxer au-delà d'un certain seuil. Alors comment définir ces seuils, hein, voilà. En sachant que les gens pauvres ou modestes habitent le plus souvent dans des passoires énergétiques. 3 critères sont retenus. la localisation géographique. On comprend assez bien qu'entre la Côte d'Azur et Mouthe dans le Jura, il y a une légère différence. La taille de la famille et le mode de chauffage. Alors pour avoir nous en parler aussi, Frédéric Danhué, qui intervient dans cette émission régulièrement, ingénieur en environnement, auteur de nombreux ouvrages, dont La dictature du carbone et l'Atlas du réchauffement climatique. Bonjour Frédéric Danhué.
Bonjour Denis Gessou.
Alors Frédéric, dites-nous quel est l'état de vos réflexions sur ce thème, s'il vous plaît.
Eh bien, c'est une avancée effectivement très importante pour deux raisons. La première, c'est qu'on inverse un peu la logique capitalistique du marché, parce que là, plus on va consommer, on va être incité à moins consommer. Voilà, ce qui est un peu anti-économique. Ensuite, c'est une forme de révolution, parce qu'alors qu'on est en pleine crise, alors qu'il faut soigner les électeurs qui doutent un peu en ce moment, d'après les sondages, eh bien, on va leur dire qu'ils vont payer de plus en plus cher s'ils consomment de plus en plus. Ce n'est pas forcément électoraliste. Donc, c'est à la fois courageux et en même temps, c'est bien dans le sens de l'histoire que de faire cette affaire-là.
Alors, Frédéric Danhué, on voit bien que le gaspillage était la pente naturelle du système, que je ne sais pas si la sobriété va devenir une vertu, mais en tout cas, on essaye. On va être dans un système, on va dire, de carottes et de bâtons. Donc, comment on va évaluer, on va dire, la consommation moyenne d'un ménage, puisque à terme, il va falloir quand même trouver une espèce de norme.
Si vous voulez, le principe, c'est celui de la voiture de location. Dans votre contrat, vous avez X kilomètres par jour, et dès qu'au premier kilomètre supplémentaire, c'est le coup de bâton. Le premier kilomètre est très cher. C'est un peu le même principe. Le tout est de définir le nombre de kilomètres, en l'occurrence de kilowattheures, dont vous avez besoin. Mais une famille peut avoir une surface, une taille, une composition différente. Pour les personnes qui vivent seules avec leurs enfants, est-ce qu'on va prendre en compte les moments où ils sont seuls, les moments où ils sont seuls avec leurs enfants, ou alors est-ce qu'on va couper la poire en deux? Voilà, tout ça est encore assez flou. Donc ça va être très difficile. Et donc ça risque d'être, pardonnez-moi ce mot, une usine à gaz,
oui,
très 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 complexe, et puis qui risque, vous l'avez dit, hein, les gens qui habitent dans des passoires énergétiques, toutes les maisons et les appartements notés eux seront de toute façon défavorisés par cette proposition du gouvernement qui est décidément pas électoraliste.
Non, mais cela dit, c'est vrai qu'ils en tiennent compte. Hein. Ils savent très bien aussi que beaucoup de personnes sont malheureusement en précarité énergétique. Frédéric Danhué, donc ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, on s'intéresse à la demande. On n'est pas sans arrêt sur la consommation. Donc là, on parle bien d'électricité et de gaz, mais on sait aussi qu'il y a d'autres formes d'énergie. Donc là, ça ne rentre pas encore en ligne de compte, mais de plus en plus de personnes sont éloignées de leur lieu de travail et sont obligés de prendre la voiture. Donc là, il y a peut-être aussi un ensemble plus tard qui pourra avoir une autre cohérence.
Mais le problème d'aujourd'hui, c'est que parce que le prix de l'essence ne cesse d'augmenter, ce n'est pas les quelques centimes moins qu'on vient d'obtenir par litre qui vont changer la chose, eh bien, on est forcé, et ça même tous les bailleurs sociaux le savent, aujourd'hui, dans le budget d'un ménage, on est obligé de lier le loyer, la consommation, les frais généraux de l'appartement, de la maison, avec les frais généraux, les autres frais généraux énergétiques, qui sont ceux de la voiture. Donc il faut penser les deux à la fois. Est-ce que l'évaluation de la facture énergétique du consommateur en automobile viendra en plus ou en moins de l'évaluation de ce qu'il consomme pour son chauffage et son eau chaude? Mais en tout cas, on ne peut absolument pas dissocier les deux, tellement, vous l'avez dit, il y a 4 millions de ménages sont en situation de précarité énergétique, et avec un coût énergétique qui augmente, en particulier le coût de l'essence, on pense que la limite de bascule, ce serait autour de 2 euros le sans-plomb 98, on en serait à 8 millions de ménages. Donc on est obligé de tenir compte de ces deux aspects. On ne peut plus penser logement sans penser transport, parce qu'on est en train de payer le prix du désaménagement du territoire que constitue la périurbanité, l'étalement urbain. Pour une fois, on ne s'attaque pas à la production, on s'attaque à la consommation. Et ça, c'est fondamental. Juste une toute petite parenthèse, diversifier les sources d'énergie ne fait que rajouter de l'offre à l'offre et n'incite pas du tout à moins consommer. Donc, ce n'est pas parce qu'on va faire des champs d'éoliennes qu'on consommera moins, pour faire très très court. Donc là, c'est très bien, on s'attaque, entre guillemets, à la consommation.
Frédéric Danhué, ce qui se passe sur l'électricité, on va dire demain, ce qui va se passer aussi sur l'eau, je crois que vous l'avez un peu théorisé, c'est pourquoi pas sur les sols aussi? Enfin, c'est un modèle, c'est un système qui peut se multiplier, ça.
Ah ben bien sûr. Il y a une ressource rare dans le monde, et de plus en plus rare, et bien plus que l'eau, ce sont les sols agricoles. Donc on peut tout à fait imaginer, parce que l'État n'oserait pas enfin encadrer le marché du foncier agricole, enfin de la terre à bâtir si vous voulez, on peut tout à fait envisager d'allouer pour tel projet X mètres carrés, et que si vous en voulez plus, eh bien là, la facture est exponentielle. Ça revient à faire un impôt confiscateur, en fait, ce que font les Danois. Oui, on peut envisager ça. On peut envisager ça, et à mon avis, on va y arriver sur l'eau. Bref, toutes les ressources qui ne sont pas forcément rares, mais dont la distribution et la bonne qualité sont de plus en plus coûteuses, à mon avis, dans les années qui viennent, avec cet exemple, cet essai en grandeur réelle sur l'électricité, sur l'énergie, on y arrivera.
Donc, affaire à suivre. Merci beaucoup, Frédéric Danhé. À très bientôt.
Merci, Denis Chessou. À très bientôt. Au revoir.
Et à suivre, dans quelques instants, sera la page 2 de ce magazine, Jean-Marie Pelt.
Des kilos d'emmerdement, la nuit est tombée dedans. Tellement de fois, c'était dur, mais pourtant, dans tout ça, au coin du lit parfois, je t'ai vu sourire. Je t'ai vu sourire. Je t'ai vu déserter une armée de manchots. Je t'ai vu leur dire non et que tu avais raison. Car toi tu les aimais, tu les aimais vraiment, tu les aimais vraiment. Et je les ai vus sourire. Et je les ai vus sourire. Je t'ai vu dire que tu étais pour rien, que tout cet amour-là, ce n'était pas le tien. Toi qui les avais guéris de tant de maladies, de tant de maladies. Quand ils t'ont vu sourire, quand ils t'ont vu sourire.
Le sourire, Stéphane Escher sur France Inter, choisi par notre programmateur Jean-Baptiste Audibert. Il est là, il a plutôt aussi le sourire. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Nous parlons aujourd'hui de la sécheresse, sécheresse 2012.
Terrible sécheresse partout dans le monde. On va retenir que c'est une des années les plus sèches, en tout cas aux États-Unis. On considère que c'est l'année la plus sèche depuis 1930. Là, il s'était passé des événements extraordinaires qui s'appelaient le Dust Bowl. Mm-hmm. Le sol était tellement sec qu'il était réduit en poussière et que des tempêtes de vent extraordinaires ont emmené de la poussière dans tous les États-Unis.
Et ça nous rappelle bien sûr les raisins de la colère.
Oui, le fameux livre de Steinbeck, l'auteur. Quand on débattait du problème à Washington, la poussière rentrait sous les portes et les parlementaires constataient les dégâts. Ça a été une énorme histoire très dramatique qui par-dessus le marché tombait juste après la grande crise de 1929 et qui a été une période dramatique pour les États-Unis. Alors cette année, 60% de la superficie des États-Unis est touchée, c'est énorme, évidemment, c'est pratiquement les deux tiers du pays. Et là, tout récemment, les derniers jours, ils ont classé cette sécheresse en exceptionnelle. Avant, elle était classée en extrême. Et là, ils l'ont mis dans la classe 1, c'est-à-dire des sécheresses exceptionnelles. Et les prévisionnistes, en étudiant toutes les sécheresses des 100 dernières années, ont estimé statistiquement qu'elle va durer encore 3 mois.
Alors, il y a un certain nombre de conséquences, bien sûr. On ne pense pas forcément à cela au départ, nous, peut-être avec notre point de vue français. C'est le Mississippi, qui est donc ce fleuve qui est de, je crois, 3800 kilomètres.
Oui.
Et qui transporte énormément de céréales.
Absolument. Il traverse 10 États, du nord au sud, à travers le fameux Middle West, qui est la zone de culture des céréales. Alors, il baisse tellement qu'il y a des bancs de sable, que du coup, il y a des ferries qui ne peuvent plus le traverser. Parce qu'ils ne peuvent plus naviguer, qu'il y a des bateaux qui ne peuvent plus le descendre non plus, c'est les fameux bateaux à eau qu'on voit dans les films de l'Ouest américain. Alors on drague en permanence parce qu'on veut éviter une autre catastrophe, c'est que les céréales récoltées ne puissent plus arriver au port et par conséquent être distribuées aux États-Unis et ailleurs. Et si le trafic devait être interrompu sur le Mississippi, qui transporte 60% des céréales américaines, il semblerait que l'économie perdrait 300 millions de dollars par jour.
Alors, autre conséquence, conséquence financière.
Oui, alors celle-là, on s'en doute, eh bien, c'est qu'il va y avoir une pauvre récolte de maïs et de blé, que par conséquent, les coûts vont augmenter au marché de Chicago, qui est le marché mondial des céréales, et que par conséquent... ça viendra s'ajouter à d'autres sécheresses qui, elles aussi, feront monter le coût des céréales sur le marché international. Alors, l'Inde, l'Inde, c'est pareil. Alors, l'Inde, il y a un phénomène qui est absolument incompréhensible, c'est que la mousson, au lieu d'arriver à la fameuse passe de Khyber qui sépare l'Afghanistan du Pakistan, n'est pas allée loin à l'ouest. Et par conséquent, des superficies extrêmement importantes n'ont pas été arrosées par la mousson. Donc il y a actuellement déjà des famines qui se manifestent quand on sait que 60% de la population indienne vit de la petite agriculture de proximité.
600 millions d'habitants se sont ainsi trouvés privés d'électricité dans le nord, l'est et le nord-est du pays, Sébastien Farcy.
C'est sans aucun doute la plus importante panne d'électricité qu'ait connue l'Inde moderne et elle a semé le chaos dans toute la moitié nord du pays. 700 trains ont été arrêtés d'un coup sur les voies, les hôpitaux ont dû fermer certains services et les feux de circulation se sont subitement éteints dans New Delhi, provoquant d'énormes embouteillages dans cette ville de 20 millions d'habitants.
Alors, il y a là une conséquence qu'on n'a pas du tout imaginée, c'est que du coup on pompe l'eau dans les nappes souterraines avec des pompes électriques. Et donc la consommation d'électricité a considérablement augmenté en Inde, ce qui a produit la fameuse gigantesque panne d'électricité dont on a dit que c'était la plus importante de toute l'histoire.
Fin juillet,
30 et 31 juillet, vous en souvenez, on en a beaucoup parlé. Ah, oui. Tout Bombay était dans l'obscurité et toutes les grandes villes de l'Inde l'étaient aussi. Alors là, ça va être le prix du riz qui va évidemment être atteint parce que l'Inde produit beaucoup de riz. En Russie, c'est pas mieux. Non, mais je ne l'ai pas fait exprès. En Russie, c'est pas mieux parce qu'il y a eu des canicules et aussi une grande sécheresse, comme en Europe de l'Est, comme dans les Poitou-Charentes. C'est nous. Parce que c'est nous, dans l'Ouest.
Mais parce que, non, sinon, globalement, on a fait une très bonne année. Hein,
oui,
les céréaliers se frottent les mains.
Oui, tout à fait. Mais quand ça partira au marché international, on paiera les conséquences du marché international des prix des céréales. Et donc, on ne bénéficiera pas pour nous tout seuls des avantages de notre bonne récolte. C'est ça, évidemment, la mondialisation.
Et puis, il faut quand même rappeler une chose, ce sont aussi les agrocarburants. Parce que d'un côté, on a quand même une tenaille de dérèglement climatique mondial et une augmentation globale de la demande alimentaire. Et les politiques de soutien aux agrocarburants, là, jouent un rôle absolument décisif aussi dans la hausse des prix alimentaires.
Oui, parce que quand on fait des biocarburants avec des graines de maïs, on soustrait ces graines, évidemment, à l'alimentation. Et M. Ziegler a poussé un grand coup de gueule. C'est un des conseillers très en vue de l'ONU. Il a dit il est scandaleux de nourrir les riches automobiles des pays riches alors que les bébés des pays pauvres meurent de faim.
On n'est pas loin de 40% aux États-Unis.
Oui,
pas,
surtout aux États-Unis.
40% du maïs, hein, oui, pratiquement, donc, est dédié aux agrocarburants.
C'était l'idée géniale de M. Bush qui avait poussé à fond dans cette direction-là, mais il s'est trompé souvent, et là, il s'est trompé gravement. Par conséquent, nous sommes dans une situation très mauvaise pour cette année. Nous allons voir quelles seront les conséquences. Alors, une des conséquences, c'est qu'il faut réduire les émissions de gaz carbonique parce que ces sécheresses sont peut-être liées au réchauffement climatique.
Alors, en ce qui concerne la France, ce que vous l'avez évoqué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'ouest de la France, ça continue à se réchauffer. Il y a une sécheresse de plus en plus marquée.
Oui, ce qui se passe dans le sud-ouest est assez mystérieux, en fait. On disait que l'Aquitaine, Poitou-Charentes, c'était le pot de chambre de la France. Oui. On a raconté ça très souvent en géographie. Quand j'étais petit, c'est ce qu'on nous disait à l'école.
Mais c'est fini, ça.
C'est le contraire. Sûr, oui. C'est les régions les plus desséchées. Et c'est les régions qui se sont les plus échauffées. Puisque, pour le Poitou-Charentes en particulier, les températures au cours du siècle dernier ont augmenté de plus de 1 degré, alors que pour la France, on est à 0,90. Voilà. Donc, c'est les régions qui viennent les plus sèches et qui deviennent aussi les plus chaudes, ce qui pose des problèmes pour l'agriculture. Mais je n'ai pas accusé Ségolène Royal. Je crois que c'est pas elle qui a produit la sécheresse.
C'est très gentil de votre part. Merci beaucoup, Jean-Marie. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir, Jean-Marie.
Au revoir, Denis. Au revoir à tous et à la semaine prochaine.
Et nous poursuivons ce magazine. Autrement dit, le troisième sujet, le voici, assez positif. Je vais vous emmener dans la Creuse.
On a la particularité dans ce coin-là d'être souvent dans le brouillard. Ouais. D'ailleurs, dans les coins aussi un peu enneigés, dès que la météo se durcit.
D'où l'humidité que l'on ressent et qui imprègne les arbres aussi. Donc
avec des essences caractéristiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va retomber sur Guéret et partir sur le nord de la Creuse, on va avoir des essences typiques de plaine. Ouais. Alors que là, sur Chabrières, on va avoir tout le cortège montagnard ou pré-montagnard. Donc avec deux essences dominantes sur la forêt, qui sont le hêtre. Ouais. Et le sapin pectiné.
Oui, parce que le hêtre, il aime bien les coins à la fois d'ombre et de... Enfin, c'est un arbre de mi-ombre et d'humidité.
Exactement. Et il aime surtout cette fameuse nébulosité ouais. qu'on va retrouver à la fois en automne et au printemps.
Alors, la forêt de Chabrières, dans la Creuse, c'est une forêt qui est toute verte. Notamment vous surprendre, mais les pieds à la tête, hein, nourris de brumes, de nuages qui s'enlacent aux arbres dans ce point culminant de la région, on est à peu près à 550 mètres d'altitude. A lieu d'ailleurs aussi en ce moment, pendant deux jours, une belle manifestation qui s'appelle Forêt Folies. Et donc, tout est vert, les troncs, les branches, les houppiers, il y a de la mousse, il y a des lichens. Et on s'attend, si vous voulez, un peu à voir les arbres gambader, un peu comme dans Fantasia. Alors c'était un beau moment de fraîcheur, hein, qui était assez calme et qui contrastait avec la chaleur orageuse des derniers jours donc dans cette Creuse. Et c'est là que j'ai rencontré Laurent Rivière, qui est cadre technique à l'ONF, et qui est un homme qui avait déjà beaucoup travaillé, c'est important, pour mettre tout le monde d'accord sur Natura 2000. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était un peu compliqué, surtout la manière dont ça avait été présenté il y a 20 ans. Et donc, il y a l'habitude, on va dire, du dialogue. Et vous allez comprendre pourquoi le dialogue est important, parce qu'il anime une charte forestière, la charte forestière du Pays de Guéret. Qu'est-ce que c'est? Nous allons voir ça avec lui. Il faut mettre du monde autour de la table, mais il y a plutôt des beaux résultats. Alors Laurent Rivière, on va parler avec vous de la charte forestière et de ce qu'est une charte forestière. Parce que là, c'est votre boulot. Donc, qu'est-ce qu'une charte forestière? Et quel est l'exemple donc, de cette communauté donc, ici à Guéret?
D'abord, il faut revenir sur la loi forestière et l'article 1 du Code forestier qui a inscrit dans le marbre que la forêt française devait non seulement répondre aux besoins économiques de toute la filière, mais aussi s'adapter aux attentes sociales de la population et prendre en compte tous les enjeux environnementaux. Ouais. Et donc, dans son article...
C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des forêts spécialisées comme on peut en avoir aux États-Unis, comme on peut en avoir en Finlande. Il faut que les trois soient réunis.
C'est ce qu'on appelle la multifonctionnalité sur un même territoire. Quand on va en Écosse, on a vraiment des territoires partagés où le randonneur, le promeneur n'a pas sa place et d'autres espaces, on va dire, complètement ouverts au public où là, la forêt n'est plus là. En France, la forêt, elle est partagée. Et donc, pour la partager, l'État a prévu dans son article 2 un outil qui s'appelle les chartes forestières. Et ces chartes forestières sont mises en œuvre au niveau des territoires, puisqu'on n'a pas du tout les mêmes problématiques en forêt périurbaine, en forêt de montagne ou en forêt limousine. Donc, à partir de ce moment-là, ce sont les collectivités qui vont mettre en place ces chartes forestières. Ici, c'est le Pays de Guéret, donc un regroupement de 44 communes.
Et là, vous avez été futé parce que la parole, c'est bien beau, mais on s'exprime plus ou moins bien, on a envie, on n'a pas envie. Et en fait, vous avez presque dit aux gens, bon, vous allez prendre des photos et puis vous allez raconter éventuellement votre forêt de demain.
Et là, ça a été terrible, puisque ça a complètement délié les langues. Les gens nous ont dit, voilà, moi j'ai pris telle photo pour telle raison, et patatata. Et nous, on a joué les éponges, et il s'est dit plein de choses, et plein de choses passionnantes, avec un respect, j'étais très étonné, un respect total de l'autre.
Exemple, que l'on comprenne bien, on est écouté partout, en Ile-de-France, dans les Vosges, en Normandie, mais ça peut nous servir. Qu'est-ce qui est ressorti ?
Eh bien, d'abord, on a posé les questions sur, d'après vous, quelles sont les valorisations économiques possibles du territoire. Ouais. Donc là, on a trouvé un fort attachement de la population à l'agriculture, mais l'agriculture locale, l'élevage. Et venait en numéro 2, la forêt. Mais la forêt, avec une filière intégrée. C'est-à-dire que les gens nous ont montré des photos de chalets en bois faits par les entreprises locales et tout. Et quand on demandait, par exemple, sur une autre question, pour vous, qu'est-ce qu'une belle forêt ? Les gens nous montraient à la fois des belles forêts feuillues, mais aussi des futaies résineuses, donc capables de fournir des produits pour satisfaire cette filière. En bref, on était resté sur le clivage feuillu-résineux. Le feuillu, c'est beau, le résineux, c'est pas beau. En fin de compte, les gens nous ont dit, non, le résineux, c'est bien. À partir du moment où on entretient la forêt, ouais. Où on fait du bois qui va servir à la filière. Et ce qui est ressorti, si vous voulez, comme doléance numéro 1, ça a été principalement la qualité de l'exploitation forestière.
Alors ça, c'est important parce qu'on sait qu'il y a toujours plus ou moins des guerres entre les exploitants, les forestiers, les citoyens. On voit des endroits où il y a des coupes rases qui sont absolument monstrueuses. On se promène dans les forêts, on tombe dans des ornières qui vont faire 40-50 cm. Ça veut dire que les engins très lourds ont tassé donc le sol et après, c'est fini, quoi. Donc qu'est-ce que permet cette charte ?
Le chemin sur lequel nous sommes, on s'y promène agréablement. Vous mettez un exploitant, le chemin, il est mort.
Oui.
On a mis en place un protocole entre la filière et les élus pour dire, voilà, les chemins, il n'y en a pas 36, les places de dépôt, il n'y en a pas beaucoup.
Place de dépôt, c'est l'endroit
où on va stocker le bois. Et en fin de compte, l'objectif de ce protocole, c'est de dire, monsieur le maire, je vais venir couper du bois dans votre parcelle, la parcelle ZB12 qui appartient à Monsieur Dupont, et qu'avez-vous à me signaler ? Et là, automatiquement, le maire, par le petit papier qui va bien, dit « Oh là, mais attention, mon chemin là, il est fragile, j'ai un captage d'eau, j'ai un alignement d'art remarquable, donc on va faire en sorte d'anticiper le meilleur scénario pour qu'il n'y ait pas d'impact. »
On anticipe, on évite la casse à venir.
On s'est aperçu, on a 40 chantiers qui sont suivis, encadrés. Les gens se parlent avant la coupe, ils se mettent autour d'une table. On s'est aperçu qu'en fin de compte, sur les 40 chantiers, ça s'est super bien passé.
Nous n'irons plus au bois et les haies sont coupées. Car ici, on pense qu'à la rentabilité. Oui, d'assez.
Entrez dans la danse. Oui. Sautez, dansez, tronçonnez qui vous voudrez.
Qu'est-ce qui est nouveau ? Vous parlez de code de bonne conduite. C'est-à-dire que quand même, les gens se sentaient un peu péteux, un peu honteux, quand même peut-être de massacrer les coins, ou c'est aussi toute la poussée environnementale, écologique dans ce pays, les associations qui ont permis d'évoluer ?
Non, en fin de compte, on avait d'un côté les élus qui disaient aux exploitants, moi, si vous ne voulez pas changer de conduite, de comportement, je ferme mon territoire. Et d'un autre côté, des exploitants qui se sont dit « Oh là là, quand même, ça ne va plus, les relations sont exécrables, donc on a tout intérêt à se fédérer, à changer notre comportement. » En sachant que quand même, dans la plupart des cas, ça se passe pas trop mal. Mm-hmm. Hein, mais c'est vrai qu'on a un petit pourcentage de, on va dire, Allez, de cow-boy qui se comporte mal et qui discrédite toute une profession. Je pense qu'un forestier ne doit pas s'approprier un espace forestier. Je pense qu'il doit travailler.
Il doit avoir une part de rêve de cette forêt,
bien
peut-être.
Bien sûr, voilà. Mais je pense qu'il faut, il faut la façonner pour les générations à venir. Mais en aucun cas, il faut dire « c'est ma forêt ». Ce qui est important, c'est de dire « j'ai eu un héritage de mes anciens, je continue, et puis c'est pas ma forêt, c'est la forêt un peu de tous les acteurs, des citoyens. »
C'est quand même bien parce que c'est un des rares métiers où vous êtes obligé d'anticiper.
Ah, complètement. Et en plus, les résultats, ce sont nos enfants, petits-enfants qui les verront.
Et ça marche plutôt bien, hein. Laurent Rivière nous a présenté cela. Alors, on n'est pas du tout chez les bisounours, hein, loin de là, mais quand même, maintenant, il y a 80 chantiers, il y a une vingtaine d'entreprises qui ont signé cela. Faut juste, alors, donc, il y a deux, trois bobries galeuses, hein, mais tout le reste, maintenant, ça fonctionne. Faut le rappeler, on n'est pas dans du réglementaire avec une charte forestière, hein, on est dans de la bonne volonté. Donc, dans un pays quand même extrêmement individualiste, c'est pas si évident, et là, c'est assez exemplaire. Voilà. En plus, la culture forestière commence à rentrer dans la tête des élus, ce qui est assez difficile dans un pays d'élevage, hein, où la forêt est quand même relativement jeune. Ils en ont profité aussi, ils ont fait de la pédagogie auprès donc, des motos et des véhicules motorisés. Donc là, maintenant, il y a des relations qui sont tout à fait apaisées. Les associations de motards aussi ont joué le jeu. Voilà. Bon, c'est pas le cas forcément dans toute la France, on s'en doute bien. Une fois de plus, ces chartes ne sont pas obligatoires, mais c'est pas mal du tout. Forêt Folies, ça c'est aussi une manifestation autour de la forêt, c'est tout à fait ce week-end. Et nous allons partir tout à l'heure à Bornéo, mais auparavant, allez, on va rester dans la forêt. Attention, parce que, écoutez, accrochez-vous, c'est très intéressant. Jean-Baptiste Audibert a choisi Tanger. On y va.
Le dos de Rémi, Rémi un ami, maman est malade, Colette a une cape rouge, elle coupe une tulipe, que fait-on maintenant? On monte au grenier, un peu de lumière éclaire le plancher, Rémi bêche son petit jardin, Rémi bêche et Colette joue. Oui, as-tu vu passer la fée de la forêt? Sa robe est formée de pétales parfumés. Elle va là-bas elfique sur les temps concentriques de tes songes. Dans les brumes, elle plonge pour ne jamais plus revenir. Par une belle journée d'avril, Colette et Monique, promenade. Robe fine, petit mouchoir, dentelle et limonade. Dans le pré, les pâquerettes épanouies. Colette fait une couronne. Que tu es jolie. Elle court à perdre haleine. Les herbes sont folles, les campanules pas nulles. Mais où vont-elles? Seul le mois de mai est revenu. As-tu vu passer la fée de la forêt? Sa robe est formée de pétales parfumés. Elle va là-bas elfique sur les temps concentriques de tes songes. Dans les brumes, elle plonge pour ne jamais plus revenir. Des nouvelles de Toby et Simone? Elle est toujours avec Valérie? Non. René est revenu. Méminet, lui, est parti. Avec Omar. Daniel est turntabliste à Guernesey. Et Rémi et Colette, toujours ensemble dans la malle du grenier? As-tu vu passer la fée de la forêt? Sa robe est formée de pétales parfumés. Elle va là-bas elfique sur les temps concentriques de tes songes. Dans les brumes, elle plonge pour ne jamais plus. As-tu vu passer la fée de la forêt? Sa robe est formée de pétales parfumés. Elle va là-bas elfique sur les temps concentriques de tes songes. Dans les brumes, elle plonge pour ne jamais plus revenir.
Elles sont pas toutes comme ça, hein, les fées des forêts. Non, pas du tout. Moi, celle de Chabrière, j'ai rencontré, était très très jolie. Oui. Non, mais elles sont un peu plus calmes. Voilà. Ah. Alors là, déjà, on a une ambiance. Et oui, parce que on va se lancer dans un autre sujet avec nos amis, nos partenaires de Terre Sauvage. Et dans le numéro de septembre de Terre Sauvage, vous pourrez aller sur des sentiers sauvages dans le Bordelais. Vous verrez les actions pour protéger le grand tétras, les plus beaux spots de nature en Lorraine, que doit très bien connaître Jean-Marie Pell, et nous allons partir à Bornéo, un pari sur la nature. On va aller au nord de l'île, dans un petit village, et on y va avec le reportage de Jean-François Elio et de Nicolas Van Ingen, qui sont deux formidables photographes. Bonjour Nicolas Van Ingen.
Bonjour.
Alors Nicolas Van Ingen, vous êtes allé donc à Bornéo, nous sommes en Malaisie, le village où la nature est reine. Racontez-nous, ce qui est très intéressant, c'est de voir des gens qui sont engagés, qui font le lien entre leur économie et leur environnement, et c'est vrai que les bonnes nouvelles sont assez rares du côté de Bornéo. Alors qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez fait?
Ah ben là j'ai découvert un village complètement extraordinaire, c'est les jeunes du village qui ont vraiment pris le sort de leur destin en main. Ils ont commencé à convaincre leurs aînés d'arrêter de faire de la déforestation, d'arrêter de braconner, d'arrêter de surpêcher. Et au début, ça a été très, très tendu. C'était des discussions même parfois violentes. Il y a des gens qui se sont fait exclure du village. Mais à force de parler avec les anciens, ils ont réussi à les convaincre. Et puis aujourd'hui, c'est une vraie réussite. Il y a un changement total de la physionomie du village. Et c'est un village qui est complètement orienté vers la protection de l'environnement.
Alors, quels ont été les bons arguments au moment de la création de cette coopérative?
Alors, ce qui s'est passé au départ, c'est que ça a fait la prise de conscience a fait suite au grand feu qu'il y a eu en Malaisie, enfin à Bornéo en 1998, dû à une grande sécheresse, probablement changement climatique, etc. Et ça a vraiment marqué les esprits en local. Et les jeunes de ce village se sont dit, on ne peut pas laisser faire ça, on va essayer de replanter la forêt qui a disparu. Il y avait des tourbières qui ont brûlé pendant 6 mois. Il y a vraiment eu des conséquences très très graves. Et ils ont essayé de recréer cette forêt-là qu'ils connaissaient. Et c'est là où il y a eu ce petit déclic dans la conscience. Après, l'argumentation pour convaincre les aînés, évidemment, il fallait qu'elle soit financière, parce que pour changer de vie, il faut quand même qu'on ait de meilleures conditions après qu'avant.
C'est du donnant-donnant,
sinon,
de toute façon.
Fait pas.
Oui.
Voilà, exactement. Et là, ça a été très très long à mettre en place, parce qu'évidemment, les anciens n'y croyaient pas. Ils ne pensaient pas qu'il y avait des Japonais, des Américains, des Australiens, des Néo-Zélandais, des Français qui allaient venir pour voir la nature chez eux, parce que pour eux, c'était quelque chose de banal. Et en fait, petit à petit, ça a pris. Il y a quelques personnes qui ont fait le pas. Ils ont monté une chambre d'hôte chez eux, un homestay, mais c'est l'équivalent d'une chambre d'hôte, hein, aux normes locales. C'est vraiment très rudimentaire, mais vraiment, on vit avec les habitants en symbiose. Et puis, ils se sont rendus compte que ça fonctionnait, qu'il y avait des gens qui venaient de l'autre bout du monde pour voir quelques pauvres orang-outans, quelques éléphants qui étaient de la faune pour eux pas du tout intéressante. Et ça a marché. Et maintenant, il y a, je ne sais plus combien, une centaine de familles qui suivent le programme qu'ils ont mis en place. Et financièrement, ça leur rapporte beaucoup plus que ça leur rapportait avant. Et il y a une cinquantaine ou une soixantaine d'emplois qui ont été créés par ce biais-là.
Alors, il y a un homme que l'on voit dans ce reportage qui s'appelle Roly Jukrana, qui est un homme qui est à la fois affable et extrêmement solide. C'est-à-dire que vous dites qu'il a la conviction tranquille et forte de ceux qui savent que leur chemin est le bon chemin.
Ouais,
il y a toujours des hommes charismatiques
ouais,
ou des femmes charismatiques.
Ça, ouais. Alors Roly, il est arrivé après les jeunes. Moi, c'est là où l'histoire elle m'intéresse beaucoup, c'est que c'est vraiment des adolescents qui étaient un peu comme on a chez nous, hein, des adolescentes d'un club CPN quelque part, qui ont envie de faire quelque chose pour la nature, et qui ont réussi à faire basculer tout leur village vers la protection de l'environnement. Roly, c'est le directeur actuel, c'est un monsieur qui est vraiment, c'est vrai qu'il sait où il va, c'est clair, il a une idée très nette de là où il veut aller, son discours est vraiment d'une clarté exemplaire, et puis il a une force de conviction qui fait que les gens du village le suivent maintenant, mais il est arrivé après. Et aujourd'hui, il est là parce qu'il faut quelqu'un, il faut un manager pour organiser ça. C'est devenu quelque chose de vraiment important. C'est cité en exemple dans toute l'Asie. Hein, donc,
Alors, on est quand même dans une nature qui prolifère de manière complètement folle. Donc, on est à Bornéo. C'est un des endroits les plus riches donc, de la planète. Racontez-nous ce que l'on voit. On parle de l'orang-outan, animal emblématique. Il y a aussi des éléphantaux. Qu'est-ce qu'il y a?
Il y a une nature florissante. Il y a toutes sortes d'oiseaux, des calaos. Il y en a 7 espèces avec des becs incroyables. Il y a petits oiseaux de toutes les couleurs.
Enfin, calao, donc c'est ça, avec un bec, ça doit être un oiseau, donc c'est ça.
Oui, mais ils ont des becs vraiment très particuliers. Ouais. Le calaorhinocéros, il a un bec qui est énorme, qui fait la taille d'un bras, avec une corne qui remonte vers le haut par-dessus. C'est vraiment un truc qui est
parce qu'il
improbable.
Sert à casser, parce que le bec, on sait très bien que c'est un outil.
C'est un ornement plutôt. C'est plutôt un ornement, mais vraiment, ça ressemble à un truc gratuit de la nature et c'est assez, assez étonnant. Et puis après, au niveau faune, mammifères, bon, évidemment, il y a les éléphants de Bornéo dont on a parlé, les orang-outans que tout le monde connaît. Il y a les singes nazis, ça c'est un vrai régal à voir. Ils ont leur espèce de grand nez rouge là qui pend. Et puis ils sont sur les branches et ils sautent de branche en branche. Ils font des bonds extraordinaires. On voit tout ça au bord de l'eau, au bord de la Kinabatangan. C'est la rivière qui se jette dans la mer là-bas. Et sur le bord de cette rivière, il y a encore une nature qui est assez florissante.
Et qui sont les nénèques ?
Ah, les nénèques, ça c'est le petit nom que les locaux donnent aux éléphants. Nénèque, ça veut dire grand-mère en langage local. Et voilà, on les appelle des grand-mères. Ça montre une proximité et puis une espèce de sympathie hein, qu'ils ont pour ces animaux-là. C'est parfois en train de changer parce que le territoire des éléphants se réduit comme peau de chagrin quand même. Il y a la pression des palmeraies à huile hein, de tous les côtés. Et donc, ils se retrouvent coincés. Ils sont souvent plus près des villages qu'ils ne devraient. Parfois, ils font des dégâts dans les cultures, mais globalement, ils sont très, très bien acceptés encore aujourd'hui.
Ça a été quoi le moteur de ces jeunes et de ces gens-là?
Les jeunes, c'est clair, c'était l'amour de la nature. Ils ont vu cette nature quand ils étaient petits. Ouais. Ils avaient, dans les années 80, on va dire, parce qu'ils avaient 17 ans, 18 ans en 1998, quand ils ont pris conscience de ça. Ils ont vu une nature qui était florissante et ils ont vu les palmeraies à huile arriver et puis cette nature qui foutait le camp. Donc, comme tout ado vivant dans la nature, à un moment, certains d'entre eux se sont dit « c'est quand même extraordinaire, pourquoi on perd ça? Il faut qu'on fasse... »
Donc, ils ont entraîné les autres.
Et ils ont entraîné les autres.
Et donc, ils se sont attaqués à leur bien commun, ce qui est la forêt.
La forêt. Ils ont commencé à enlever toutes les lianes qui pendaient, qui empêchent la forêt de repousser. Ils ont fait des replantations. Et maintenant, ils ont des forêts qui ont, pour les plus anciennes, une quinzaine d'années d'âge.
Et donc, vous dites qu'il faut environ 5 ans pour que les oiseaux reviennent dans une forêt replantée, 10 à 15 ans pour les orangs-outans, et 50 ans et 100 à peu près pour que les éléphants se sentent à l'aise.
Oui, c'est exactement ça. Il faut le temps que les arbres aient une taille suffisante. Les éléphants, ils sont très timides. Donc, ils ont besoin de couvert tout le temps. Ils ont vraiment peur. Même le bruit de l'eau les fait fuir quand il y a de la pluie qui arrive. Et pour qu'un éléphant se cache, il faut des gros arbres.
Alors, je veux dire, la moralité de l'histoire, qu'est-ce que c'est ? Ce qui est très intéressant, c'est le côté, alors, on va dire, réversible des choses. On est bien d'accord, vous l'avez bien dit, ce ne sera pas la forêt primaire originelle. Mais c'est quand même de nouveau une forêt et non pas de l'huile de palme.
Oui, oui, c'est une forêt. Et puis, ce qu'il y a de très positif, c'est que le niveau de vie du village a vraiment monté. Leur éducation est la vraiment franchi un cap incroyable. C'est des gens qui, pour la plupart, avaient arrêté l'école à 11, 12, 13 ans et qui se sont mis d'eux-mêmes à l'anglais, qui maintenant gèrent leur propre site internet, se mettent à envoyer des mails à l'autre bout du monde. Enfin, c'est une révolution mentale qui a eu lieu par la protection de la nature.
Autre source de revenus grâce au tourisme principalement, parce que c'est quand même ça.
Bien sûr, oui.
Tout le monde s'y retrouve, c'est gagnant-gagnant.
Il y a un modèle économique qui est en train de se mettre en place et les gens de ces villages-là vivent mieux que les villages à côté.
Et est-ce que ça peut contaminer ?
On espère que ça peut contaminer. Après, bon, c'est une question d'échelle. Là, on a réussi à faire quelque chose de formidable sur quelques villages. C'est cité en exemple par le pays, l'État. C'est le seul endroit dans ce village où il confie la gestion d'une zone protégée au village même, à la communauté locale.
Et puis on peut aussi citer le WWF qui a donné un coup de main aussi.
Qui était effectivement à l'initiative au tout début, quand les jeunes ont eu cette prise de conscience, ils ont cherché quelqu'un pour les conseiller, ils se sont tournés vers le WWF et il y a un jeune Australien qui est venu leur donner un coup de main.
Alors vous retrouvez donc cette histoire dans le numéro de Terre Sauvage de septembre. Jean-François Elliot et Nicolas Van Ingen, merci beaucoup et puis à très bientôt et vous saluez la Brenne qui vous est chère de notre part.
Merci Denis.
Et dans quelques instants, nous allons faire un petit tour du côté de Notre-Dame-des-Landes. Donc on va revenir dans l'actualité, il y aura aussi vos appels. Mais voici Flavia Coelho sur France Inter. On est un petit peu loin de Bornéo, alors pas au Brésil.
Tem gente humilde, tem menina de família.
Flavia Coelho, Périphérie, Périphéria, ce qui tombe assez bien avec le message suivant qui est arrivé au 01 56 40 40 35, ou bien qui arrive aussi si vous nous écrivez, et puis après bah, on vous redonne le répondeur. Voilà, oui, un petit rapport, mais là, cette fois-ci, nous sommes dans les monts lyonnais.
Je vais vous raconter l'histoire carrément incroyable d'un projet routier inutile et coûteux à 25 km à l'ouest de Lyon. En fait, ça se passe dans une petite commune, Éveux, 1000 habitants, qui est connue pour le couvent de la Tourette, que l'on doit à Le Corbusier. Mais les habitants d'Éveux dénoncent un non-sens historique. En 2018, ils ne pourront plus se déplacer à pied ou à vélo pour se rendre dans la commune voisine de L'Arbrelle. L'Arbrelle, habituellement, on y fait ses courses, les jeunes ils vont à l'école, les actifs s'y rendent pour prendre un tout nouveau train-train. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'une future déviation censée vider L'Arbrelle de ses 1000 poids lourds quotidiens, mais qui en fait coupera le territoire en deux, obligera les Éveusiens à prendre leur voiture pour faire quelques centaines de mètres qu'ils font actuellement à pied. Parce que, évidemment, le projet a été pensé pour les poids lourds, mais pas pour les piétons. Et les Éveusiens, qui ont donc décidé de rentrer en résistance et de s'opposer à ce projet, vont de surprise en surprise. Je vous donne quelques exemples. Cette déviation ne sera qu'un boulevard supplémentaire à moins de 100 mètres de la route actuelle, avec de nombreux ronds-points et des pentes très dangereuses. En plus, elle générera plus de pollution, de bouchons en amont, en aval. Elle aboutira sur une zone commerciale très dense et de façon transversale débouchera sur une zone 30 km/h qui est déjà très utilisée, 6000 véhicules par jour. Et puis enfin, il y a le coût du projet, 70 millions d'euros. Et ça, ça fait bondir les contribuables. Alors, ce grand projet de déviation, il est pensé à l'envers. Il est opposé à la démocratie participative, à la mobilité douce, à la qualité de vie. Il est opposé à la maîtrise de l'argent public.
Voilà, donc sur le répondeur 01 56 40 40 35, actualité, nous allons aller du côté de Notre-Dame-des-Landes, donc joli pays de bocage, de zone humide au nord-ouest de Nantes, que vous connaissez maintenant beaucoup. Aéroport, ça vous dit quelque chose? Donc évidemment, un point noir entre les écologistes et l'État aujourd'hui. Christophe Douget est conseiller régional Europe Écologie des Verts, donc à la région Pays de Loire. Et donc, on va parler avec lui de l'eau, parce que là, c'est quand même extrêmement important. Et s'il vous plaît, d'abord, petit rappel historique du projet, de cet aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
C'est une idée qui est sortie de terre dans les années... C'est à mon âge, ouais. 1967. D'accord. Ça a 40, 45 ans. Au départ, c'était de faire un grand aéroport à l'ouest de la France pour accueillir le Concorde. Naît ensuite l'idée d'un aéroport interrégional. Ensuite est venue l'idée d'un aéroport parce que celui de Nantes-Atlantique n'était pas sécurisé. Survol de la ville, ce qui n'est pas le cas. Nantes est un aéroport sûr, sinon il y aurait déjà beaucoup d'autres aéroports en France et en Europe qui seraient fermés parce qu'ils survolent une ville.
Il faut dire qu'il y a le bruit quand même.
Alors il y a le bruit, mais dans le même temps, on n'a pas mis en place les moyens pour réduire le bruit dans les habitations qui sont survolées. Et puis également, on n'a pas approché non plus les questions de modification d'axe de vol de la ville, justement pour résoudre ce problème-là. C'est-à-dire qu'on a tout fait pour se dire, de toute façon, à terme, nous irons à Notre-Dame-des-Landes. Ouais. Et puis au final... Je pense que la vocation cachée aujourd'hui de Notre-Dame-des-Landes, c'est d'en faire un projet d'urbanisation, c'est-à-dire que l'aéroport transféré à Notre-Dame-des-Landes libère
laissera de la place
et donc la ville de Nantes peut, ou l'agglomération nantaise peut s'agrandir. Voilà, c'est d'accord. Plus ça l'enjeu d'aujourd'hui.
Quelles peuvent être les conséquences sur l'eau d'un aéroport comme celui-là ?
L'impact des travaux sur les sols. On va imperméabiliser des centaines d'hectares. Il ne faut pas oublier que la concession de l'aéroport, c'est plus de 1200 hectares. L'urbanisation va se faire sur un peu plus de 700. Ce qu'il faut imaginer, c'est que cet aéroport que l'on veut transférer va se faire sur un espace qui a été épargné de tous les aménagements agricoles de ces 60 dernières années. Ah. C'est-à-dire qu'on est sur des têtes de bassins, des sous-bassins d'affluents de la Loire et de la Vilaine, qui sont deux grands fleuves français, sur des espaces qui n'ont pas été remembrés, des ruisseaux qui n'ont pas été recalibrés, mais c'est des endroits magnifiques. C'est-à-dire que c'est probablement un des derniers grands espaces bocagers et humides de tout l'ouest de la France. L'impact de l'aéroport, ça va être d'urbaniser toutes ces têtes de bassin, d'aller recalibrer des cours d'eau, d'aller accélérer l'eau qui va descendre vers la Vilaine, qui a quand même des problèmes d'inondation, on se souvient des inondations de Redon notamment, et puis aussi sur le bassin de l'Erne côté Nantes et côté Val-de-Loire. Et donc nous sommes aujourd'hui dans des autorisations de travaux au titre de la loi sur l'eau, donc on évalue l'impact, et si impact il y a, eh bien on doit le compenser. On doit compenser, je détruis tant d'hectares de zones humides, je dois restaurer tant d'hectares de zones humides, je dois aller restaurer tel linéaire de cours d'eau, etc. Et aujourd'hui, ce dont on s'est rendu compte, c'est que Vinci Aéroport du Grand Ouest et aussi l'État qui est porteur du grand barreau routier qui doit relier les deux, l'aéroport, ne compense pas ce qu'ils détruisent. C'est que la loi sur l'eau française, qui a évolué depuis une trentaine d'années jusqu'en 2006, dit quand je détruis un hectare de zone humide, je compense d'un hectare de même fonctionnalité. Si c'est une tête de bassin, je dois restaurer un hectare de tête de bassin. Si je n'y arrive pas, je dois compenser du double. D'accord. Et aujourd'hui, dans le dossier présenté par AGO et par l'État, il n'y a rien de tout ça. À aucun moment, il n'est dit « je vais faire de telle façon, je vais faire à tel endroit et surtout, ça me coûtera tant ». N'importe quelle collectivité de France et de Navarre qui aurait un projet de refaire une station d'épuration, de faire un lotissement, etc., se doit de présenter le dossier le plus complet possible avec toutes ces mesures compensatoires. Sinon, il est immédiatement rejeté par l'État. Et bien là, aujourd'hui, l'État s'auto-autorise quelque chose qu'il n'autoriserait même pas à des concitoyens lambda ou à des communes françaises.
Christophe Douget, c'est peut-être pas si inaperçu, mais dans l'Express, c'était à la fin juillet, le 25 juillet, M. Nottebaer, qui est le président de Vinci Airport, donc qui est un des porteurs du projet, a déclaré au sujet de Notre-Dame-des-Landes, ce transfert n'est pas une réponse, donc ce transfert de l'aéroport sud vers Notre-Dame-des-Landes, n'est pas une réponse à des problèmes aéronautiques, mais un choix politique de développement du territoire, comme ça au moins c'est clair. Le gouvernement a décidé, il l'a dit, on fera cet aéroport, Delphine Bateau l'a confirmé, donc ministre de l'Environnement, et on attendra l'épuisement des recours juridiques. Un autre appel, allez.
Oui, bonjour, je vous appelle de Toulouse, Joël Carrara, vice-président du Grand Toulouse. Écoutez, Denis, je voulais juste vous signaler quand même un projet qui a son importance pour notre agglomération. C'est un projet, figurez-vous, de téléporter, comment dire. Il ne s'agit pas de la téléportation, mais tout simplement de téléphérique urbain qui correspond à un besoin de transport collectif. Ce n'est pas du tourisme, mais on avait besoin de franchir un obstacle naturel qui est une grande colline et de relier la périphérie d'agglomération à une autre périphérie. Donc ce projet verra le jour, nous lançons les opérations. Donc c'est avec 3 stations, on prévoit à peu près 7000 passagers, et avec, bien sûr, on est dans les études préliminaires sur l'insertion paysagère, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, le câble est peut-être certainement demain un des nouveaux modes de transport collectif qui pourrait avoir son utilité dans le paysage, à condition, bien sûr, qu'il ait aussi une qualité architecturale. Donc c'est ce qu'on travaille actuellement. Donc voilà, je voulais juste vous signaler ce projet qu'on a sur le Grand Toulouse et qui commence à faire parler de lui, à la fois à Toulouse, mais aussi un petit peu dans le pays en ce moment.
Comme vous avez compris, c'était notre thématique transport. Merci à Stéphane Côme, à Christophe Imbert qui réalisait l'émission, à Yann Bouillot, à Philippe Duclos, Jean-Baptiste Audibert, Anne Gouzon qui nourrit les sites. La semaine prochaine, nous irons en Guyane. Oui, nous allons aller dans le parc national de Guyane avec Stéphane Côme. L'Atu du Mont-Petit-Loup, ce sera donc dimanche à 19h54. Après les petits bateaux, je vous souhaite un excellent week-end et à suivre Clara Dupont-Mono. Clara, elle est chez Clivre.
CO2, mon amour, avec l'énergie moins chère.com, site d'information sur les primes énergie de Leclerc.